On a commencé une étude sur les dons du Saint-Esprit et on poursuit cette étude ce soir. On va voir une autre partie intéressante parce que ça s'adresse pour chacun de nous encore ce soir. Le titre du message, c'est « À quoi servent les dons dans l'Église? » Pourquoi que Dieu a donné les dons spirituels, ça c'est une chose, mais à quoi que ça sert dans l'Église? À quoi peut bien servir tous ces dons et ces ministères, tout ce que Dieu donne, tout ce qui vient de Dieu en fin de compte? Première question qu'on va, se demander, à quoi cela servit-il à Jésus de faire des miracles? Parce qu'il avait la parole, le Seigneur. Il était capable d'enseigner la vérité. Il était capable d'enseigner tout ce qui vient du monde invisible, parce que lui, il venait du ciel. Il pouvait enseigner, parler de son Père, parler du Saint-Esprit, parler de la vie à venir, parler du monde invisible, parler du diable, parler des choses du royaume des cieux. Il aura pu juste parler sans faire aucun miracle. Pourquoi qu'il a fait des miracles? Pourquoi qu'il a eu des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties, le discernement des esprits, dons de guérison, dons de miracles? Pourquoi qu'il a eu tout ça? Bien, il y a un verset qui en parle de ça dans Jean, le chapitre 2, le verset 11. C'est écrit tout de suite après qu'il y a eu la multiplication, ou la changer l'eau en vin plutôt, quand il est arrivé aux noces de Cana, puis ils ont manqué de vin dans le party que Jésus était avec ses disciples. Puis là, ils ont manqué de vin, sa mère s'en vient le voir, probablement que c'est une fête que sa mère organisait peut-être pour le mariage d'une des sœurs de Jésus. Jésus était là comme un responsable dans cet événement-là, parce que sa mère s'inquiétait du party, puis elle est allée voir son fils en disant, « Ils ont plus de vin! » Fait que là, lui, Jésus voulait pas s'en mêler, fait que finalement, il a dit d'aller chercher de l'eau, puis il a changé l'eau en vin. Puis ça, c'était son premier miracle. Puis en même temps que ça nous rappelle, que ça nous parle de ce miracle-là dans la parole de Dieu, ça nous dit aussi pourquoi il a fait ce miracle-là. Dans Jean 2, le verset 11, ça dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Fait que Jésus... Il parlait, puis il expliquait les choses. Mais il n'a pas juste parlé, il a agi. Il s'est manifesté puissamment pour manifester sa gloire afin que ses disciples croient en lui. C'est comme si les miracles servent à augmenter la foi. Chaque fois qu'on voit des exaucements de prière, chaque fois qu'on voit une manifestation de la présence de Dieu, on voit que Dieu est là, ça l'encourage notre foi, ça nous édifie. Fait que Jésus, en faisant ce miracle-là, voulait encourager ses disciples à croire en lui. C'est ça qui est le but. Dieu le Père ou le Saint-Esprit, ils ont fait un miracle à travers Jésus, pour que ça l'amène le cœur des gens vers Jésus. Ça l'attire. Ça l'a attiré les gens à croire en Jésus, mais particulièrement ses disciples. Ses disciples qui sont son Église. Les disciples est l'Église du Seigneur. Jésus-Christ veut manifester ses dons à travers ses disciples, qui est son Église. Dieu veut édifier son Église. Il veut fortifier son Église, ses enfants. Il veut les fortifier par les dons spirituels. À quoi que ça sert les dons spirituels dans l'Église? Pour quel but Jésus envoyait-il expliquer ses miracles à Jean-Baptiste? On voit ça dans Matthieu 11, 2, que Jean-Baptiste, lui, il était là pour prêcher la parole de Dieu. Il avait été envoyé de prêcher la parole de Dieu et pour finalement finir par voir quelqu'un que le Saint-Esprit viendrait sur lui, puis que quand il est envoyé, celui qui l'a envoyé, il a dit, celui que tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe née sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste l'a vu. Il a vu Jésus recevoir le Saint-Esprit comme une colombe qui s'est déposée sur Jésus. Puis là, Jean-Baptiste, il disait à tout le monde, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean-Baptiste avait vu un miracle pour signaler à tout le monde c'est Jésus qui est le Messie. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste, un peu de temps après, il était mis en prison. Puis pendant qu'il était en prison, il a commencé à prendre un danse spirituellement. Il a commencé peut-être à douter un petit peu. Puis là, Jean-Baptiste, il a envoyé quelqu'un aller voir Jésus pour lui poser une question. Puis là, c'est ça qu'on va regarder dans Matthieu 11, 2, ça dit, « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, qui a envoyé ses disciples aller voir Jésus, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Pourtant, Jean-Baptiste, il avait été envoyé par Dieu, puis ça lui avait été dit. Il savait, mais il a commencé à douter. C'est juste pour nous montrer comment est-ce que la nature humaine, c'est normal et naturel qu'on peut avoir des doutes. Mais c'est pas normal et naturel pour un enfant de Dieu de demeurer dans les doutes ou d'accepter les doutes. Il faut éclaircir les choses tout de suite pour dissiper tout doute. Puis Dieu, qui est fidèle, Dieu est le Tout-Puissant, puis Dieu s'arrange de manifester sa gloire afin de réaugmenter la foi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour réaugmenter la foi à Jean? Tout de suite, Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. »
Ouais, c'est pas mal
fort,
ça.
Oui. Là, on voit là-dedans que Jésus, il a eu comme une compassion pour son cousin. Jean, c'était son cousin. Jésus, là, quand il est allé voir son cousin pour se faire baptiser, il savait tout ce qui était pour se passer, puis il savait que le Saint-Esprit viendrait. Puis Jean-Baptiste s'opposait à ce que Jésus se fasse baptiser. Puis Jésus a dit, « Laisse faire, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Puis là, il a accepté de baptiser Jésus. Jean-Baptiste ne voulait pas le faire parce qu'il reconnaissait en Jésus qu'il était quelqu'un d'extraordinaire.
C'est lui qui a besoin d'être baptisé par toi.
Oui. Fait qu'il ne savait pas que c'était le Messie, mais il savait que c'était quelqu'un d'extraordinaire, puis il ne voulait pas le baptiser. Il savait que c'était un saint, c'est un juste Jésus. Puis là, il a accepté, puis là, le Saint-Esprit est descendu. C'est un signe pour démontrer à Jean-Baptiste. C'est lui qui baptise d'Esprit Saint et de feu. Puis c'est lui l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, il avait la foi, puis il en parlait, puis il n'a pas peur de personne pour en parler. Il est allé voir...
Hérode
qui a fait danser puis qui a fait danser sa fille. Bon, il est allé voir Hérode puis il a dit, il t'est pas permis d'avoir la femme que t'as, puis il a pas peur de rien. Sauf que quand il était rendu en prison, là, il était rentré en lui-même puis il commençait à douter. Puis là, il se demandait. Puis là, il a envoyé ses disciples puis Jésus-Christ. Il a fait en sorte que Jean-Baptiste ne doute pas dans sa foi, puis qu'il puisse recevoir les miracles qu'il avait besoin, puis qu'il entende parler des miracles qui se produisaient, afin d'augmenter sa foi. C'est extraordinaire. Là, on voit qu'à quoi que ça sert les dons dans l'Église. Dieu veut servir des dons spirituels pour édifier notre foi. Même quand on tomberait dans des doutes, il faut continuer à prier Dieu qui nous montre encore, qui nous manifeste sa présence, puis qui nous montre des signes qui est là, puis qu'on va être encore béni, encouragé d'aller de l'avant comme Jean-Baptiste. Il a sûrement été quand il a entendu tous les messages que ses amis ont pu y rapporter. À quoi que ça sert les dons dans l'Église? Ça sert à édifier le peuple, ça sert à nous fortifier pour qu'on passe à travers nos moments difficiles, comme Jean qui était dans la prison. À quoi ça sert les dons? 1 Corinthiens 12:7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour que ça soit utile à tout le monde qui est là autour dans cette église-là. Chaque église est équipée de dons pour sa croissance et son édification. On a tous besoin de voir la main de Dieu dans nos vies, d'une manière ou d'une autre. Des fois, là, c'est juste quelqu'un qui pratique la miséricorde. Ça, la miséricorde, c'est avoir de la pitié pour les autres puis de vouloir les aider. Juste ça, là, qui est un don de Dieu, quand tu es une personne qui est miséricordieuse envers les autres, juste le fait d'offrir ton secours à quelqu'un qui en a besoin, tu viennes d'y faire sa journée, puis cette personne-là va être relevée moralement, ça va y faire du bien de se faire encourager par l'aide qu'elle reçoit ou une parole pour l'encourager. Comme tous les autres dons, comme des paroles prophétiques ou des manifestants, un miracle, un exaucement de prière, n'importe quoi peut nous édifier pour notre besoin dans l'Église. Que construit-on avec les dons? Mais on est en train de construire l'Église. Dans 1 Corinthiens 14,4, ça nous dit, « Celui qui parle en langue, qui est un don spirituel, il s'édifie lui-même. Puis celui qui prophétise, il édifie l'Église. » On voit que les dons servent pour l'édifier. Que tu t'édifies toi-même ou que tu édifies les autres, c'est Dieu qui se manifeste à travers nous. Dans le parlant en langue comme dans la prophétie, ça l'amène une bénédiction. Puis quand on parle d'édification, là, le mot être édifié, c'est comme une bâtisse. Hein? C'est un édifice. Un édifice, c'est une bâtisse. Fait qu'on s'édifie, ça veut dire on se construit pour devenir de plus en plus grand, de plus en plus haut, de plus en plus accompli. Être élevé spirituellement. Puis on est toutes des pierres dans cet édifice-là, puis on est la maison, l'habitation de Dieu. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire aussi dans l'Église, les dons spirituels? Ça peut servir à sauver des personnes dans l'Église. Comment? On voit ça dans 1 Corinthiens 14, le verset 24. Ça nous dit, « Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelque non-croyant ou homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte tombant sur sa face, il adorera Dieu puis publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Amen. On voit que dans l'Église, les dons, particulièrement le don de prophétie, parce que le don de prophétie t'édifie l'Église, mais en plus, il y a un non-croyant qui est là, il va être, ses pensées de son cœur vont être révélées, puis il va tomber sur sa face, puis il va dire, « Dieu, il est réellement parmi vous dans cette Église. » Puis Dieu se manifeste dans les dons de prophétie, pas juste comme, « Et ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » Ça, ça n'est une manière que le monde prophétise dans l'Église. C'est comme s'il parle dans le nom de Dieu. Mais il parle aussi dans la prêche. Quand on écoute la prêche, puis que Dieu répond à nos questionnements qu'on a dans la semaine, puis il nous répond par la prêche, là, c'est la présence de Dieu. Dieu, il est témoin de ce qu'on pense dans la semaine, puis il nous répond pendant le message. On a des questionnements, le Saint-Esprit parle par le... Puis là, on peut dire, Dieu est réellement présent dans l'Église. Les dons sont importants dans l'Église. La présence du Saint-Esprit est importante dans l'Église. Parce que ça peut amener des âmes au Seigneur. Ça dit, s'il rentre dans l'Église un non-croyant, quelqu'un qui est athée, ou une personne du peuple, ça veut dire, même un athée, s'il rentre dans l'Église, il peut sortir croyant. C'est fort, là, c'est Dieu qui dit ça. Fait que quand on invite le monde, on n'est pas obligé de les inviter juste parce qu'ils croient. Tu peux les inviter même s'ils ne croient pas. Viens et vois. Puis là, pendant qu'il va être dans l'Église, c'est le travail du Saint-Esprit de se révéler, puis de lui montrer qu'il est là. Puis il va révéler les pensées de son cœur par le message, par des prophéties dans l'Église. Ça va toucher son cœur, puis il va dire, « Dieu, il est réellement parmi vous. » C'est fort, c'est fort, c'est fort. Gloire à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Invitons le monde à venir à l'Église. Disons au monde, « Viens à l'Église, viens écouter, puis le Saint-Esprit va s'en charger. » Alléluia. Sur qui devons-nous compter pour la croissance de l'Église? Souvent, il y en a qui comptent dans leur Église, ils comptent le nombre de brebis. « Oh, on est rendu à 250! On est capable! » Non. C'est pas parce qu'on est 250 d'une église qu'on est une meilleure église. C'est pas parce qu'on est rendu à 2000 dans une église qu'on est une meilleure église ou qu'on est plus capable. Ça veut rien dire, le nombre de personnes. Ou de compter, on a beaucoup d'argent dans notre compte de banque. Ou on a des personnages populaires, des personnes qui sont populaires qui sont dans notre église. Ou on a un bon groupe de musiciens dans notre église. Tout ça, ça sert à rien. Il y a une seule chose qui est importante qu'on doit obligatoirement avoir dans notre église, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est ça, l'onction du Seigneur. Acte 9, 31, ça nous dit, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. »
Parce que c'est pas une religion, c'est une relation.
C'est une relation avec le Dieu Tout-Puissant, puis qui fait que ce Dieu Tout-Puissant-là, le Saint-Esprit, est présent dans l'Église, puis à cause de sa présence, on va être édifié, puis on va marcher dans la crainte du Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire croître l'Église. Elle s'agrandira pas parce qu'on est 2000, ou parce qu'on est 250, ou parce qu'on a de l'argent en banque, ou parce qu'on a un bon groupe de musiciens, ou parce qu'on est un prédicateur de renommée. C'est pas par cela, c'est par la présence du Saint-Esprit que l'Église va s'accroître.
Comme à la Pentecôte.
Comme à la Pentecôte. Et tout ça aussi pour venir, c'est pas que l'Église s'accroissait, l'Église va avoir une croissance. Mais on regarde toujours la croissance du nombre. Mais il n'y a pas juste la croissance du nombre qui est important. C'est la croissance en nombre de fruits qui compte. Est-ce que l'Église est productive en fruits pour le Seigneur? Est-ce que l'Église est une source de bénédiction? Même si c'est une petite Église, elle peut être une source de bénédiction. Faut pas penser, parce qu'on est une petite Église, qu'on n'a pas de fruits ou... que c'est rien que par le nombre de personnes qu'on peut dire qu'on est béni. Pas du tout. Tu peux avoir plein de fruits, puis que le monde ait la joie d'y être, puis être content d'être là, puis tout le monde sort de là béni le dimanche, ou le mercredi quand on est dans une réunion. C'est du fruit, ça. On sort grandi. On sort de là édifié. C'est ça qui est important. C'est parce que le Saint-Esprit agit. Selon Paul, sur quoi doit être bâtie la foi des gens? Dans 1 Corinthiens 2, 4, c'est correct d'avoir la parole, la prédication, mais il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Paul mettait l'accent à ce qu'on voit et ce qu'on entend le Saint-Esprit dans l'Église. On veut voir la puissance de Dieu. Fait que là, on parle du Saint-Esprit puis des dons spirituels depuis plusieurs mois. Mais Paul, il était comme ça. C'était un gars qui parlait du Saint-Esprit, puis il voulait voir la présence du Saint-Esprit. Il voulait créer la soif de cela en l'enseignant, en expliquant de long en large, pour que les gens puissent en désirer encore plus. Puis c'est de même que Dieu va être glorifié, puis qu'il va répondre, puis qu'il va nous l'accorder. Paul, lui, dit, il prêche, il dit, ma parole et ma prédication est là, mais elle repose pas sur de la sagesse humaine, elle repose sur le Saint-Esprit. Ça veut dire que même quand il prêche, il s'attend à ce que le Saint-Esprit parle par sa bouche pour édifier tout le monde. Que tout le monde sorte de là, édifié par le message, et non pas des discours de sagesse qui bâtissent des belles prêches avec des poèmes quasiment, puis avec il y en a qui mettent l'accent sur le haut savoir, puis le connaissance, puis là, ils en mettent, mais au bout de la ligne, ils parlent tellement avec des mots universitaires qui sont déconnectés du langage du peuple, puis le monde ne comprend pas ce qu'il dit. Trop intellectuel. Puis c'est ça qui est le point. Faut pas que ça soit intellectuel, il faut que ça soit spirituel. C'est par le Saint-Esprit que ça l'est. Amen.
Amen.
Amen. Comment Paul rendait-il témoignage lui-même quand il témoignait aux gens? Dans 2 Corinthiens 12:12, ça dit « Les preuves de mon que je suis un apôtre, de mon apostolat, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Lui, un vrai apôtre, faut que ça vive dans les miracles. Si t'as pas de miracle, ça dit pas vraiment que t'es un apôtre. Pour lui, un apôtre, c'est un gars qui manifeste la puissance de Dieu. Comme les 12 apôtres, là, les 11 qui sont devenus 12, mais à cause qu'il y en a un qui a abandonné. Mais ils marchaient dans la puissance de Dieu, les apôtres. Ça dit que la crainte s'emparait de tous dans, au début des actes. Il y avait 3000 convertis, là, puis il se passait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres, puis la crainte s'emparait de tous. Le monde avait comme la chienne de oser parler en mal des apôtres. Il honorait les apôtres grandement. C'était comme s'il était élevé sur un piédestal parce que c'était puissant qu'est-ce qui se passait là. Oui, des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Hein. Ça, quand on pense à l'histoire d'Ananias et Saphira, juste le fait que l'autre dise une menterie devant l'apôtre Paul tout de suite le discernant, l'apôtre Pierre a eu le discernement tout de suite de voir que c'était une menterie, puis il a dit tout de suite, puis là, la personne est tombée morte là. On voit que il était animé du Saint-Esprit, puis c'était puissant quand il était là. Il répondait avec la parole du Saint-Esprit aussi, puis Dieu agissait à travers leurs paroles. Puis un apôtre, ça marche dans la puissance. Ça marche pas juste dans des paroles. C'est pour ça que dans l'Église, un apôtre manifeste la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a établi les divers dons pour l'Église, pour que ça se manifeste dans l'Église. Tous les dons, c'est premièrement pour l'Église. Que ça soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Tu vois comme dans Antioche, c'est là que ça se passait. C'était une grosse église. Il y avait une grosse église à Jérusalem. À Antioche aussi, il y avait des pasteurs, des docteurs. Des prophètes.
Des docteurs.
Des enseignants. C'est des enseignants. Parce que dans les prédicateurs, il y en a qui prêchent, puis il y en a qui enseignent. Quand tu prêches, c'est comme des exhortations puis des encouragements quand tu prêches. Tu encourages le monde à aller de l'avant. Comme clairement, lui, c'est un prédicateur, il prêche. Il y a beaucoup de messages que c'est pour nous encourager à continuer à aller de l'avant. Tandis qu'un autre, quand il prêche, va expliquer les affaires, puis il va parler de différents sujets pour expliquer. Bon, mais quand quelqu'un, c'est une personne...
Pour former les gens, tu veux dire?
C'est pour former. C'est un professeur. Il enseigne comme un professeur, mais c'est un docteur. Aujourd'hui, les docteurs lui donnent des diplômes, ils appellent docteur, c'est parce qu'ils ont un doctorat, ils ont fait de hautes études universitaires, t'as le bac, t'as la maîtrise, puis t'as le doctorat. Quand ils disent que t'es un docteur, quand t'es rendu à ce niveau-là. Mais dans le temps de Jésus, ça n'existait pas les diplômes. Puis c'était pas des hautes sciences avec tous les cours comme tu vois là aujourd'hui. Aujourd'hui, ils mettent ça trop complexe. Il y en a qui ont le don docteur, mais ils sont à plus bas niveau. Comme moi, j'étais un gars qui aime expliquer les choses. Je suis plus enseignant que prédicateur quand que je prêche. J'explique. Je peux passer des semaines et des mois sur le même sujet, puis on parle du Saint-Esprit.
T'as le don de connaissance.
C'est comme tu connais, puis j'étais au bas niveau, parce que c'est toutes des choses de base. Je suis pas un haut savoir intellectuel d'université. J'étais un gars au niveau d'expliquer les choses au niveau de base, les choses qu'on a besoin de savoir. Puis tu peux appeler ça un enseignant. T'enseignes, t'expliques. Tu commences du point 1, puis tu vas jusqu'au point 10, du A à Z, puis là, tu y vas. Puis il y en a des bien plus. On a différents dons. Il dit que celui qui prêche avec la force que Dieu lui communique. Ça veut dire que Dieu donne des onctions différentes à un ou à l'autre, avec des forces plus puissantes ou avec des révélations plus profondes, mais il y en a qui sont au bas niveau sur des choses de base, puis il y en a d'autres, c'est des professeurs de professeurs, parce qu'il y en a qui enseignent à des pasteurs, puis ils forment des pasteurs, fait qu'ils enseignent à un haut niveau. Mais des fois, il y a des pasteurs qui devraient retourner aux choses de base parce qu'ils sont tellement compliqués dans les explications qu'ils mélangent plus le monde que de les aider. On sort dans des théories que Jésus n'a jamais parlé avec des théologies que faut y aller à l'université pour les comprendre.
Ouais.
Chaque virgule, chaque point subi. C'est ça, ça devient complexe. Puis au moins qu'on ait les choses de base, c'est ça qui est important. Puis Dieu établit dans l'Église, c'est ça que je souligne dans ce verset-là. À quoi servent les dons spirituels dans l'Église? Mais Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, don de guérir, secourir, gouverner, parler diverses langues. Les dons sont premièrement dans l'Église. Fait que ceux qui se disent, oh ben moi je veux tous les dons, mais je suis pas intéressé d'aller à l'Église. Mais t'as pas compris c'est quoi le chemin de Dieu, parce que le chemin de Dieu, ça se passe à l'Église premièrement. Tu peux pas dire, j'aime pas les chrétiens, ils sont trop charnels. Mais comment tu peux dire que t'aimes Dieu, que tu vois pas, puis que t'aimes pas tes frères et sœurs que tu vois? C'est ça que Jean nous dit dans son épître. Tu peux pas dire que t'aimes Dieu que tu vois pas, mais que t'es pas capable d'aimer tes frères et sœurs. Dieu a jamais dit de les aimer parce qu'ils sont parfaits. Non, il a dit aimez-vous les uns les autres, peu importe leurs conditions parfaites ou imparfaites. Puis s'il vient te demander 70 fois, 7 fois, il vient te demander pardon dans la même journée, faut que tu demandes pardon. Faut-il pardonne, je veux dire. Même si ça sera 490 fois d'une journée, ça veut dire que ça prend-tu quelqu'un d'imparfait pour venir te le demander, demander pardon 490 fois d'une journée? Fait que Jésus savait que dans les gens de son Église sont des imparfaits, puis il faut être capable de les aimer. C'est dans l'Église que Dieu a établi les dons, puis il veut se manifester dans l'Église. Qu'on ait une vision d'Église, premièrement. Pour quel but doit-on aspirer aux dons dans l'Église? 1 Corinthiens 14, 12, c'est le dernier verset pour ce soir. Il dit de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ça veut dire, c'est sûr qu'on veut des dons aussi pour quand on évangélise. Dieu veut se manifester aussi pour sauver les gens. Ça, on va en parler un peu la semaine prochaine. Mais en attendant, cherchons les dons pour édifier l'Église, parce que c'est pour l'Église que Dieu a envoyé premièrement ses dons. Pourquoi encore? Pour édifier, fortifier, qu'on devienne solide. Puis même si on a des doutes, ça va nous enlever nos doutes, parce que Dieu va se révéler pour qu'on soit encouragé à continuer. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous est enseignée. Seigneur, on a besoin de cette parole pour nous édifier, pour nous fortifier, pour qu'on puisse s'accroître spirituellement parlant de ton onction, de ta présence, de ta puissance, de tes dons, Seigneur. Tout ce que tu as à nous donner, Seigneur, on le veut. On veut voir ton Église grandir. On veut entendre tes prophéties, tes paroles de connaissance, tes paroles de sagesse, discernement des esprits, dons de guérison et des miracles, tes dons en parlant en langue avec prophétie, tes dons d'interprétation, le don de la foi. On veut voir tous tes dons spirituels. Viens manifester ta gloire dans l'Assemblée, dans l'Église, Seigneur, et faire accroître ton Église. On s'en remet à toi, Seigneur, pour notre croissance et notre édification. Puis on veut regarder à toi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.